Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Martine Thomas qui vient nous parler du groupe PAR. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, le déséquilibre temporaire. Catherine Stassin, notre collaboratrice, est des nôtres. Elle nous livre une lettre au patron de Facebook. Tout ça dans le menu de Folie Douce. Cette semaine, on commence en chanson avec une chanson de Liana. Elle s'intitule « On the Run ». Bienvenue à Folie Douce.
À Folie Douce, parce que la santé mentale nous concerne tous.
J'accueille mon invitée, Mme Martine Thomas. Bonjour, Mme Thomas.
Bonjour, Yvan.
Bonjour, Martine. Donc, on va se tutoyer, finalement. Vous êtes directrice générale du groupe PAR. On va d'abord te présenter. Peux-tu nous parler un peu de est-ce que tu as toujours travaillé dans le domaine communautaire? Et au groupe PAR, je pense que ça fait quelques années que tu es directrice.
Oui, moi, ça fait 6 ans que je suis au groupe PAR. Avant le groupe PAR, j'étais dans les coopératives en milieu scolaire. J'étais directrice générale des coopératives en milieu scolaire.
OK.
Fait que j'ai fait un MBA, puis j'ai décidé de me réorienter, puis j'ai abouti au groupe PAR.
Et le groupe PAR existe quand même depuis longtemps. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est? On a déjà fait nous-mêmes affaire avec, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont fait affaire avec le groupe PAR. Ça fait longtemps que ça existe.
Oui, le groupe PAR existe depuis 1987. Et à cette époque-là, ils ont défini la mission qui n'a pas changé depuis ce temps-là, qui est la réinsertion socio-professionnelle des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale ou d'ordre psychosocial.
Okay.
Puis pour ce faire, nous, on a 2 outils. On a l'école, qui s'appelle Projet PAR, qui à l'origine, au départ, s'appelait Projet PAR, le groupe PAR. Et ce sont des adultes qui ont des problèmes de santé mentale qui viennent finir leur secondaire. Et après ça, on a l'entreprise d'insertion qui s'appelle Part du chef. Et là, on forme des gens pour qu'ils obtiennent un diplôme de métier semi-spécialisé comme aide cuisinier. Puis là, on a trois secteurs. On a le traiteur, on a le restaurant et on a le service des plats surgelés qu'on livre à la maison.
Est-ce que le évidemment, la pandémie, on n'y a pas échappé personne, là, mais j'imagine que ça a quand même modifié un peu vos activités ou pas de temps?
Bien, l'école s'est vue fermée parce qu'on a deux profs de la commission scolaire qui viennent, puis eux, ils doivent absolument travailler. Ils peuvent pas travailler en présentiel. Mais pour Part du chef, on n'a jamais fermé parce que toute la partie plats surgelés qu'on livre à la maison, nous, on s'est vraiment spécialisé chez beaucoup de personnes âgées puis les gens en perte d'autonomie. Et là, avec la pandémie, je te dis, ça l'a explosé. Et c'est sûr qu'il n'y avait plus de traiteurs.
Plus de demandes,
oui,
c'est ça.
Ouais.
Les gens ne veulent pas sortir, moins sortir.
Oui,
tout ça, ouais.
Oui. Puis tu vois, comme présentement, là, avec la pandémie, c'est démesuré là, tout ce qu'on peut produire. Donc, on est concentré sur les surgelés. Le restaurant, on continue à faire du prêt à emporter. Puis le traiteur, l'année passée, on était le traiteur officiel de SOS Violence Conjugale. Donc, on livrait les trois repas par jour, 7 jours/semaine. On a fait ça plusieurs mois. Puis cette année, ben non, le traiteur, il s'est redirigé vers les plats surgelés. Puis là, on se concentre, puis on produit du plat surgelé, là, dans lequel on a développé deux logos, qui est un logo santé, moins de gras, moins de sel, puis un logo pour les diabétiques.
Et pourquoi les gens commandent? Bon, bien sûr, ils vont encourager la cause ou soutenir votre cause ou soutenir l'organisme, mais après ça, pourquoi ils commandent chez vous? Est-ce que c'est beaucoup moins cher?
Bien, il y a un prix qui est moins cher. En tout cas, quand moi, je fais l'étude de marché, là, quand j'évalue nos prix, on est toujours un peu moins cher, sauf les grands spéciaux des magasins. Là, on ne peut pas concurrencer ça. Les deux logos que je viens de te parler aussi sont très appréciés. Tu sais, l'Institut de cardio va nous recommander régulièrement.
Okay.
Les hôpitaux nous recommandent régulièrement. Ils ont notre pamphlet, puis ils nous recommandent parce que vraiment, moins de gras, moins de sel. Puis là, en ajoutant moins de sucre, bien, pour les diabétiques, bien, on est fortement recommandé pour les gens qui ont des problématiques de santé ou quoi que ce soit. L'autre chose, c'est moins... Si tu goûtes à nos plats un jour, tu verras, c'est vraiment moins salé, mais notre théorie, c'est que tu peux toujours en ajouter. Plus difficile d'en enlever.
Exactement. Donc, c'est pas juste des gens qu'on pourrait dire du milieu communautaire, c'est vraiment tout le monde,
toute la population.
Qui a appris à vous connaître,
oui.
Puis qui a reçu des services, puis
oui.
Qui prend confiance, puis automatiquement,
oui.
Vous avez un service.
On commence à peine à se publiciser, parce qu'on ne s'est jamais publicisé, ça a toujours été du bouche à oreille, puis on en vend des petits plats, là.
Ouais.
On vend plus que 150 000 petits plats par année, fait que c'est beaucoup de petits plats.
Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est que les gens, par exemple, les gens plus seuls vont moins cuisiner, puis donc c'est plus facile, c'est plus simple de
oui.
Commander justement à l'unité, là?
Oui. Tu sais, la portion, elle semble un peu plus petite, mais en fait, au niveau du poids, elle est la même que si tu vas à l'épicerie.
Okay.
Tu achètes des portions à l'épicerie. Mais je te dis, la portion santé, là, tout le côté santé que les gens avant moi ont développé, ce qui a été une grande idée,
ça,
je te le dis, les CLSC, les hôpitaux nous recommandent régulièrement parce que c'est un produit qui aide au niveau de la santé. Il y a même des trucs expérimentaux qui ont été faits là, avec l'Institut de cardio où ils recommandaient nos plats.
Ah oui, c'est ça, c'est une belle carte de visite.
Oui, avant, pré, puis post-opératoire, tu sais. Fait que là, on livre à beaucoup d'endroits.
Depuis longtemps, on le dit, le projet PAR, puis l'intégration des gens, là, l'insertion, en fait, au niveau de la cuisine. Pourquoi la cuisine, c'est quelque chose qui est peut-être pas facile, mais qui est plus accessible à des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, par exemple? Parce qu'on a vu à travers les années où il y avait des choses, des secteurs peut-être différents, mais la cuisine, ça semble être plus facile à gérer, ou en tout cas plus gérable. Là.
Bien, d'une certaine façon, oui, puis d'un autre, non. C'est quand même un métier stressant, hein, la cuisine, parce que tu es toujours dans les délais, mais c'est historique, parce que quand ils ont démarré le groupe PAR, ils s'étaient concentrés la première année sur le ménage, tu sais, fait qu'ils allaient faire le ménage chez les personnes âgées. Rapidement, les gens se sont rendus compte que les personnes âgées avaient faim. Puis à l'époque, là, c'était le CLSC du Centre-Sud, c'était les psychiatres du CLSC Centre-Sud qui ont parti ça. Fait que là, ils sont aperçus que les personnes âgées avaient faim. Puis tu sais, c'est beaucoup plus facile de faire le ménage une fois par mois, mais tu peux pas manger une fois par mois. Alors, ils se sont mis à apporter des soupes qui restaient du restaurant, de la cafétéria, du CLSC et tout. Puis l'année d'après, ils ont bifurqué en alimentaire parce que l'objectif, c'était de nourrir les gens, les personnes âgées, qui avaient de la difficulté à se nourrir.
Oui, c'est ça.
Fait que c'est ça. Fait que oui, un, ils n'ont pas besoin de faire de grandes épiceries. Deux, le plat est facile, tu mets ça au micro-ondes et tout, tout est recyclable, tout est compostable. Et trois, bien, c'est bon pour la santé. Donc, conclusion, tu as beaucoup... Et il va être recommandé par le CLSC, par...
Ça aide aussi, c'est ça, sans avoir à faire de la publicité, vous avez comme des références oui. qui viennent d'organisations oui. qui sont vues par les oui. gens, souvent. Là.
Oui, oui, puis tu sais, les gens, souvent les personnes âgées vont manger plus le midi, un peu moins le soir, fait qu'ils vont manger un plat le midi, puis ils vont se prendre une petite soupe le soir, ouais. ou tu sais, des choses ouais. comme ça. Fait que c'est pour ça que les plats sont appréciés.
Puis t'as pas à, c'est ça, à acheter de l'épicerie tant que ça, puis de justement de commencer à cuisiner, perdre des choses, oui. puis c'est ça, en gérant ça de oui. cette façon-là, c'est plus facile.
Puis t'as beaucoup de femmes qui viennent nous voir en disant, hey, moi j'ai cuisiné, là, ça fait 50 ans, j'étais curée de cuisiner, là, pardonnez-moi le terme, mais ouais. je veux faire autre chose. Puis que là, ils vont acheter un plat, ils vont le séparer en deux avec leur conjoint ou leur conjointe, ils vont se faire une petite salade à côté, puis le plat est parfait.
Oui.
Et puis, en cuisine, bien, aussi, les gens, ils ont ça leur donne une raison, ils s'accomplissent dans le sens qu'ils redonnent à quelqu'un. Tu sais, c'est pas juste une production commerciale où tu as l'impression que le grand patron d'en haut va se peigner son condo au Panama ou en Floride. Là, ouais. là tu comprends que ce que tu agis, ce que tu produis, aide des gens. Fait qu'il y a aussi toute cette sensibilisation-là. Fait que c'est bon pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale parce qu'ils ont besoin d'avoir un but, souvent, qui est autre que...
De sentir utile, oui. de dire « je vais travailler ».
De contribuer à la société.
Je suis pas juste un numéro, non. je vais faire quelque chose, oui. je m'accomplis. C'est intéressant oui. aussi, c'est créatif, oui. puis il y a quelque chose oui. d'intéressant à faire de la cuisine.
Des exemples étaient passés avec SOS Violence Conjugale. Écoute, il n'y a jamais eu aucun absent. Puis c'est ce que les gens disaient. Hey, nous autres, on est à la guerre, c'est vrai. Puis nous autres, on est au front, puis on nourrit du monde.
Ouais. Tu sais?
Fait qu'ils s'accomplissaient. Ils avaient l'impression. Ils réalisaient quelque chose. On nourrissait des gens, puis on était un besoin pour beaucoup de monde.
Dans le groupe PAR, la mission santé mentale, comment tu la vois? Comment l'organisme la voit? Parce que c'est ça qui a comme fait un peu avancer le projet de oui. la cuisine et tout ça. Mais qu'est-ce que ça occupe comme vision, disons, quand on parle de santé
mentale? C'est énorme, parce que tu sais, quand je t'ai parlé de la mission, je t'ai pas parlé de cuisine, puis je t'ai pas parlé d'école. Je t'ai parlé de réinsérer des gens qui ont des problématiques, qui vivent avec une problématique ouais. de santé mentale. Fait qu'on est au centre de ça. Donc, on est en lien avec leurs intervenants, avec leurs travailleurs sociaux. Ils ont des cours d'ordre plus psychosocial, comment est-ce qu'ils peuvent se réaliser, quelles sont leurs problématiques. On a une intervenante, ils rencontrent l'intervenante régulièrement dans la semaine. On affronte leurs problématiques, puis on essaye de les... réaligner, pas les réaligner, c'est même méchant, mais tu sais, de tracer la route avec eux.
Leur faire découvrir par oui. eux-mêmes, d'une
oui.
certaine façon.
Oui, puis de tracer une route avec eux, avec les contraintes que la société représente, ouais. qu'ils ont des difficultés. Se réinsérer aussi, c'est réapprendre les codes sociaux d'une société qui, des fois, on ne comprend plus, ou on n'accepte plus, ou on... des fois, on s'est retiré pour des raisons bien précises.
Ouais.
Puis, ça leur permet aussi d'équilibrer leur médication, souvent. De travailler 35 heures par semaine debout, c'est quand même un exercice. Là. Les premières semaines sont difficiles, ils ont mal physiquement, ils ont de la difficulté à faire ça. Mais une fois qu'ils ont passé cette étape-là, là, après, ils peuvent se réaliser. Puis la cuisine, ça a un côté, tu sais, de goûter, il y a un petit côté magique, si tu veux, dans ouais. la cuisine. Hein, ouais.
On parle de rien. Ben, de oui. rien. On parle d'ingrédients pour créer quelque chose qui oui. est un tout. Là.
Oui, c'est ça. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on a beaucoup d'appui à côté et on prend comme outil. C'est pour ça que quand je présente le groupe, je dis toujours on a deux outils qui sont la cuisine puis l'école. Parce que c'est des outils. C'est pas l'objectif en soi, ce ne sont que des outils pour atteindre l'objectif.
Ouais. Avant d'être directrice, donc tu disais ça fait 6 ans que Martine, tu es là comme directrice au justement au groupe PAR. Est-ce que la santé mentale, est-ce que tu étais probablement déjà familière avec, mais est-ce que tu as appris des choses en fait en 6 ans? Est-ce que tu as évolué ou est-ce que t'as, puis dans quel sens? Hein?
Oui, bien, tu sais, moi j'ai fait un cours avant en psychologie, il y a des années de tout ça. Je suis pas toute jeune.
Donc, tu es déjà intéressé par le sujet.
Tu sais, moi, à l'époque, mon père enseignait ce qu'on appelait l'enfance inadaptée dans le temps. Là.
Fait que
moi, j'ai grandi, tu sais, avec tout le vocabulaire et tout.
Ouais.
Et oui, j'ai appris énormément. Puis moi, je suis une fille d'action. Donc, tu sais, moi, je suis pas la fille qui passe toute la journée en arrière de son ordinateur parce que je finis par m'endormir.
Mm-hmm.
Mais que je suis souvent en cuisine, je vais leur parler, je travaille avec eux, mais j'ai appris beaucoup de choses, oui.
Ouais.
Et j'ai même appris, je sais pas si on peut dire apprendre, mais de l'humilité, tu sais, parce que...
Face à ça, la santé mentale.
Puis face à des gens qui se réalisent, tu sais.
Ouais.
Tu sais, quelqu'un qui a... Moi, nous autres, on a un employé chez nous, là, que les psychiatres avaient dit qu'elle ne retravaillerait plus jamais. Elle s'occupe d'un département maintenant.
Donc,
elle est, tu sais, on l'a, ça fait des années, là, mais on a cheminé ensemble et cette femme-là se réalise incroyablement. Moi, j'ai vu un grand spécialiste, qu'on dit, des échecs, là, qui gagnait énormément des tournois d'échecs canadiens et tout, et qui, à peu près autour de 35-40 ans, s'est tellement réalisé, a vraiment trouvé chez nous sa voie, qu'il a pu s'acheter une auto, avoir son propre appartement, il travaille dans une boulangerie, une pâtisserie. Cette personne-là, là, je peux t'en nommer là, des cas comme ça. J'en ai plein des exemples.
Et pour la
comme
majorité
ça.
Des gens, ça, on trouve ça normal, mais pour quelqu'un qui a eu des gros problèmes de santé mentale, c'est pas si facile d'avoir son autonomie, sa voiture, son appartement, peu importe.
Oui, c'est énorme. C'est énorme là, tu sais. Puis souvent, les gens ont tout, bouleversé ça, ont tout changé ça, dépendant du type de maladie mentale qu'ils ont, de problématiques et tout. Mais non, il y a un chemin à faire. Nous, on est comme la dernière route, tu sais, on est là, c'est-à-dire que là, OK, tu te sens prêt, tu sens que ça va, il va y avoir un grand effort à faire, et ça y est, tu vas venir chez nous, puis nous, on va juste t'aider à t'amener.
Exactement.
On recrute, donc, souvent, donc, tu sais, nous, s'il y a des gens qui nous écoutent puis que ça les intéresse, on recrute pour l'école, on recrute pour être aide cuisinier ou aide cuisinière.
On va donner les coordonnées, si tu veux, parce qu'effectivement, on est rendu là, ça, les gens qui veulent, comment on peut trouver toutes les coordonnées du groupe PAR?
Ben, t'écris groupepar.ca sur Internet, puis tu vas nous trouver.
PART, c'est
oui,
ça?
Oui.
Donc, merci beaucoup, Martine Thomas, donc directrice générale du groupe PAR. Merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce et bonne continuation.
Merci de m'avoir invité.
C'est un beau projet, merci.
Bonne journée.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'éclipse ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes yeux deviennent ma destinée. Ce qu'on dit de nous, on vit à deux ce que l'on ne sait pas. En image, on dit adieu. On vit dans ce que l'on ne connaît pas. Je crois.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le moment du bloc expresso. Bonjour Pierre.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, le déséquilibre temporaire.
Oui, ça c'est un terme que je ne connaissais pas. Mais comme tu le sais, je fais toutes sortes de découvertes quand je me promène sur le web.
Oui, quelle belle invention, cet Internet. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça?
Ah, moi, je serais très, très malheureux parce que ça a changé nos vies. Tous les jours, oui. Alors, remarque qu'on trouve de tout hein, sur l'Internet. Il y a des choses très intéressantes, des choses intelligentes, mais il y a
beaucoup de...
Les gens le savent qu'il y a du vrai et il y a du pas vrai.
Oui. Alors... mais tout ce que tu amènes, c'est vrai.
J'espère.
En général.
Ouais. J'espère de trouver des choses intéressantes.
Ouais.
Alors, le déséquilibre temporaire, oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé, comme je l'ai dit, sur le web. C'est un article qui s'appelle « Le mythe de l'équilibre de vie ». Et c'est écrit par un monsieur du nom de Mathieu Desroches, qui est comptable et expert en organisation et productivité personnelle. Il y en a plusieurs qui s'appelleraient des coachs. Hein, c'est la mode, ça, les coachs personnels. Alors, ce monsieur Desroches nous dit... On aspire tous à avoir une vie équilibrée, une vie dans laquelle on est parfaitement balancé entre nos différentes sphères, comme le travail, la famille, la vie personnelle, les relations et tout le reste. Et cette quête est tout à fait louable. On aimerait avoir assez de temps pour faire chaque chose et ne jamais rien négliger. Du temps pour faire du sport, du temps pour être en famille, du temps pour travailler et gagner sa vie, du temps pour poursuivre ses rêves, etc. C'est un idéal très populaire dont on entend de plus en plus parler. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette notion de l'équilibre de vie est un mythe ou un idéal presque inatteignable? Avant d'aller plus loin, il faut premièrement comprendre ce qu'est l'équilibre de vie. En termes simples, on pourrait dire que mener une vie équilibrée, c'est avoir suffisamment de temps pour assumer toutes nos responsabilités de vie sans ne rien négliger. Et de façon générale, on a tous deux grandes sphères de vie à concilier, incluant chacune plusieurs responsabilités qui nécessitent aussi un équilibre. D'une part, il y a la vie personnelle, incluant toutes sortes de responsabilités, comme la gestion quotidienne, c'est-à-dire les tâches ménagères, les courses, la préparation des repas, etc. La santé, c'est-à-dire le sommeil, la détente, l'activité physique, consulter son médecin, etc. Il y a la famille, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe, les enfants, les parents, les frères et sœurs, etc. Et le côté social, soit les amis et le loisir, etc. Et d'autre part, la vie professionnelle ou avec diverses responsabilités comme l'administration, c'est-à-dire les emails, les appels, la paperasse, etc. La formation professionnelle, les responsabilités clés de votre emploi, les projets spécifiques, les objectifs à atteindre et finalement les relations professionnelles. Il faut donc concilier la vie personnelle et professionnelle. Cela implique de passer juste assez de temps au travail tout en se gardant des temps de qualité au niveau personnel. Lorsque quelqu'un est déséquilibré à ce niveau et qu'il passe par exemple trop de temps au travail, on dit que cette personne n'a pas de vie. Hein, on le dit souvent. Ouais. On dit qu'elle se brûle au travail, néglige sa vie personnelle et ne doit probablement pas être heureuse.
C'est le défi, parce que quand tu énumères tout ça, il faut être bon dans tout ça, là, de tout ce que tu dis. Là, fait que c'est difficile. Là.
C'est vrai.
C'est pas facile.
Vrai. Non. Alors, l'inverse est aussi vrai. Si quelqu'un passe trop de temps sur sa vie personnelle et pas suffisamment au travail, on dit que cette personne est paresseuse et qu'elle ne fait rien de sa vie. L'équilibre de vie implique donc, premièrement, de concilier la vie personnelle et professionnelle. Et ensuite, à l'intérieur de chaque sphère de vie, il faut aussi concilier les différentes responsabilités qui en découlent. Autrement, certaines responsabilités seront assurément négligées. Par exemple, si dans mes temps personnels, je passe tout mon temps sur des loisirs comme les jeux vidéo ou des sorties entre amis, alors je risque certainement de négliger d'autres aspects de ma vie personnelle, comme faire du sport ou faire le ménage de ma maison. ou si je passe tout mon temps avec les enfants, alors je risque de ne plus avoir de temps personnel pour m'adonner à mes passions. Je risque alors de dire encore « je n'ai plus de vie » et si au travail je passe trop de temps à faire des tâches administratives comme lire mes courriels et gérer ma paperasse, alors je risque de ne pas avoir assez de temps pour avancer sur le projet que mon patron m'a demandé de faire. » Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, l'équilibre implique d'être en mesure de concilier toutes ses responsabilités et de leur attribuer suffisamment de temps pour les assumer et ne pas les négliger. Mais cet idéal est un mythe. C'est irréaliste et pratiquement impossible à atteindre dans les faits. Pourquoi? Il faut comprendre que dans la vie, on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Ça, c'est certain.
Ouais.
Si on passe du temps sur quelque chose, on ne peut pas automatiquement en passer sur une autre. Ça veut donc dire que si je fais quelque chose, je ne fais rien d'autre. Par exemple, si je réponds à mes emails, je ne suis pas en train d'écrire un article. Et le problème avec l'équilibre, c'est que ça demande justement de séparer son temps pour essayer de tout faire et ne rien négliger.
Et on sait qu'il y a des imprévus, parce que, tu sais, on peut dire, je vais passer une demi-heure sur des courriels, mais s'il y a des urgences ou quelque chose de spécial, ça vient de balancer. Là.
C'est vrai. L'équilibre suggère, par exemple, nous dit M. Desroches, tu dois consacrer assez de temps à chacune de tes responsabilités, donc tu dois diviser ton temps entre les emails, les projets importants et les relations clients pour y parvenir. Et le hic, c'est que quand on cherche à être partout, on n'est nulle part. Par exemple, si j'essaie de répondre à mes emails, de retourner mes appels, de faire quelques tâches administratives, je ne terminerai rien de tout cela à 100%. Alors, je m'arrête ici.
Bien hâte d'entendre la suite, parce que effectivement, je suis un peu d'accord que c'est pas facile à faire. Donc, effectivement, on va poursuivre plus tard à l'émission le déséquilibre temporaire.
Santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
Je suis en compagnie de notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler ton sujet, en fait, une lettre au patron de Facebook, devenu maintenant Meta, mais on connaît plus sous le nom de Facebook jusqu'à récemment.
En effet, on le connaît encore sous le nom de, notamment Facebook. Mais connais-tu Mark Zuckerberg ou est-ce un nom qui te dit quelque chose?
Oui, ben c'est le grand patron de...
C'est le grand patron,
de Facebook Meta maintenant, oui.
Facebook est maintenant Meta et Meta comprend Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres applications moins connues.
Oui.
D'accord?
Ils ont fait l'acquisition de plusieurs compagnies qui étaient avant indépendantes, mais c'est devenu sous le même chapeau, là.
Voilà, c'est assez stratégique. Et en fait, en général, ces applications sont interdites au moins de 13 ans. Sauf WhatsApp, il faut avoir 16 ans et plus.
OK.
D'accord? Donc, c'est quand même assez limité quant aux populations de jeunes qui peut toucher. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien de contraignant quand on s'inscrit, en fait. Donc, personne ne demande une pièce d'identité.
On peut tricher sur notre date de naissance.
Évidemment, on peut tricher sur la date de naissance. Ouais. Et puis, ce qui est majeur aussi, c'est qu'il existe un messenger pour « kids ». Ça s'appelle Messenger Kids. Et donc, si vous avez des enfants, sur votre profil Facebook, évidemment, un jeune moins de 13 ans ne peut pas s'inscrire. Mais vous pouvez ouvrir un fil Messenger, une conversation Messenger pour votre enfant. Et il peut échanger avec d'autres enfants entre 6 et 12 ans.
Quand même.
Exact.
C'est plutôt jeune.
Voilà. Donc, ça, c'est ouvert. Donc, il y a des enfants qui fonctionnent déjà entre 6 et 12 ans dans ce système Messenger Kids. Et aussi, on le connaît, le phénomène via Instagram, WhatsApp, avec des filtres qui déforment, où on refait un petit peu le visage comme on le veut, etc.
C'est rigolo, puis ça plaît aux enfants, entre autres.
On rigole comme ça, mais est-ce qu'on a pensé à tous les effets? Et donc, ça met un petit peu la table, parce que ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, un groupe de chercheurs, des chercheurs qui touchent aussi bien la santé psychologique, les technologies numériques et la santé, donc des chercheurs vraiment de haut calibre et des experts de haut calibre, ont écrit une lettre ouverte à Mark Zuckerberg, rien de moins que lui. Et c'est a été mis cette lettre sur carrément le site de l'Université d'Oxford. Donc, grande crédibilité.
C'est pas la dernière venue, là, comme
voilà, université. Donc on pose cette lettre ouverte. Et qu'est-ce qu'on va aller dire à Mark Zuckerberg? On va aller lui demander d'agir pour protéger la santé de nos jeunes. Mais pourquoi ils se permettent, dans le fond, d'écrire directement à Mark Zuckerberg? Parce que auparavant, Mark Zuckerberg a dit non, pas du tout, on respecte, on fait attention à la violence, on fait attention aux déformations via les filtres, etc. On a des études internes qui montrent que ça ne nuit pas. Mmh. Alors maintenant, depuis la fin de l'année 2021, là, on sait qui mentait. Pourquoi on sait qui ment?
Lanceuse d'alerte, je pense, entre autres.
Voilà, Frances Haugen, ouais. La fin de l'année 2021, elle est allée dénoncer le fait que non seulement ils ont des études qui attestent bien qu'il y a des effets néfastes sur les enfants et les adolescents, mais en plus, ils en sont pleinement conscients et ils n'agissent pas.
Les effets néfastes, est-ce que c'est de l'addiction, entre autres? Ou...
Ça peut être de l'addiction, mais ça va jusqu'au suicide.
Oui, parce que les gens, souvent, voient peut-être des ont l'impression que d'autres personnes sont mieux, sont plus beaux, sont plus en santé, sont plus heureux. Voilà. Puis ça donne de la déprime, en fait.
Faible
donne...
estime de soi, ouais. Déprime, ça peut aller jusqu'à... Quand des enfants partagent entre eux et qui n'ont pas encore... Ça, c'est un chercheur français qui dit... Ils n'ont pas encore développé le sens de ce que peut être l'intimité. Et s'ils partagent des dossiers, des photos, qui regrettent vite... C'est trop tard.
Ils n'ont pas l'expérience que d'autres
peuvent avoir. Ils n'ont pas la distance nécessaire.
Ouais.
Ils ne peuvent pas poser un bon jugement. Et donc, ça a des conséquences dramatiques, non seulement sur eux qui postent ces messages ou ces photos, mais sur les gens qui visent aussi. Donc, c'est une vraie catastrophe. Et évidemment, d'autres chercheurs se sont penchés sur ce phénomène. Et ils ont aussi constaté ces effets néfastes parce que l'un des principaux effets, c'est qu'en fait, on peut s'accoutumer. Hein. Il y a un petit jeu qui est connecté en même temps. Il y a des chouettes photos avec des petits filtres roses, des petites paillettes. C'est vraiment très enfantin, tout ça. Donc, ça va attirer les enfants. Et en fait, on devient accoutumé. On a besoin de quelque chose qui, en fait, au fond de nous, ne nous fait pas du bien. Quel est l'effet sur notre cerveau? C'est que ça va... à long terme, nous causer du tort. On va déprimer, même chez les enfants et les adolescents.
Ouais.
Très faible estime de soi, problème dans le développement, et ils sont en plein développement. Donc, c'est vraiment fond... Ils touchent à quelque chose qui est vraiment hyper malléable encore, le cerveau des enfants et des adolescents. Et ils font d'énormes dégâts. Donc, les chercheurs, oui, ils ont des données. Hein, ils ont pris les données qu'ils pouvaient. Mais les chercheurs, pourquoi ils ont écrit cette lettre ouverte? En fait, ils ont vraiment trois reproches, pas des reproches, disons. Allez, ils écrivent pour trois bonnes raisons. Parce qu'eux, ils n'ont pas assez de données concernant ces effets, d'accord? On le voit par ceux qui transparaissent dans les médias et que les parents signalent. Il y a eu suicide, il y a eu tentative de suicide, il y a eu agression, il y a eu et toutes les déprimes qu'on ne signale pas. Ça, ce sont des cas, si les hôpitaux ont des statistiques, les chercheurs peuvent aller les chercher. Mais le problème, c'est que la plupart des chiffres, évidemment, c'est pour continuer à viser Meta, donc Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est eux qui possèdent les chiffres intéressants. Alors, voilà ce que disent nos chercheurs.
Et comment prouver, c'est ça qu'eux doivent se dire, parce que oui, ça peut créer des problématiques, mais comment le prouver, ça, c'est une autre histoire.
Le prouver, c'est que maintenant, avec les fuites, avec tous les dossiers, les fichiers qu'a sorti Frances Haugen, qui était une personne haut placée, qui était ingénieure, qui était...
Elle travaillait à même Facebook et tout.
Ah oui, elle était hyper haut placée dans les hiérarchies de Facebook à l'époque. Donc, elle a sorti des dossiers, énormément de dossiers. Il y a eu des analyses, il y a eu des études du Wall Street Journal, il y a eu des études de chercheurs éminents anglais et américains, etc. Donc, ce ne sont pas des gens qui gagnent là-dessus. Ils essayent de montrer que, attention, protégeons nos enfants et nos adolescents. Et pour ceux, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, ils font un appel à l'aide et ils disent, écouter M. Zurkorbert, parce qu'ils commencent vraiment la lettre, ils essayent d'aller l'interpeller en tant que personne peut-être. Et ils disent, M. Zurkorbert, voilà, nous ce dont on a besoin, c'est une transparence absolue, d'abord des données que vous avez obtenues sur les effets de la santé mentale des jeunes et des enfants. On veut une transparence de vos études parce qu'il s'agit de, oui, de santé, de vie ou de mort d'enfants et d'adolescents. Donc on veut, un, une transparence. Deux, on veut que vous contribuiez, et nous, les chercheurs, on veut contribuer à vos études. Pourquoi ? Parce que les études que nous avons étudiées pour le moment, ce sont des études en Occident aussi, principalement. Les pays qui ont les moyens de payer leurs chercheurs. Mais il y a tous les pays, tous les autres continents.
C'est utilisé à travers le monde.
C'est utilisé à travers le monde. Meta, à lui seul, a 3 milliards d'utilisateurs. Donc Facebook, WhatsApp, Instagram, 3 milliards d'utilisateurs. Donc vous rendez compte, là-dedans, évidemment, ce ne sont pas tous des enfants. Il y a un pourcentage d'enfants et d'adultes et d'adolescents par rapport aux adultes qui est inférieur, bien entendu. Mais par contre, les dégâts, là, sont immenses. Donc, mais c'est sûr qu'on veut les protéger, nos
enfants.
Mais cette
lettre-là visait plus, les enfants, puis les...
Elle vise exclusivement enfants et adolescents.
Parce qu'il y a certainement des mauvais côtés aussi pour les adultes. Là. Il y a certainement
tout à fait,
des
on en a déjà parlé dans d'autres chroniques, les effets néfastes des réseaux sociaux sur les adultes. Ouais. Tout à fait, ça existe aussi. Parce qu'on peut aussi accoutumer un adulte pour qu'il revienne et qu'il soit sur un ordinateur. Il y a des gens qui deviennent moins bons au travail, qui deviennent moins... parce qu'ils sont addicts.
Et qui dépriment aussi anglais. Parce qu'ils voient les autres, puis on a l'impression que leur vie, c'est merveilleux.
Fantastique, puis... ils sont tous à Cuba ou
c'est
ailleurs.
C'est ça, on a toujours les meilleures photos, on ne les voit pas quand ils sont en déprime.
Non, on ne les voit pas dans la salle de bain ou devant le miroir.
Comme ça arrive à tout le monde.
Ou en lit, dans une petite boule, on ne les voit pas,
c'est sûr. On met toujours le meilleur côté de nous, finalement.
Ben, c'est certain, donc ça, c'est encore une autre dimension. Ouais. Mais là, vraiment, ces chercheurs s'inquiètent beaucoup pour les enfants et les adolescents. Ils essayent peut-être d'aller toucher aussi le père de famille, Marie Zuckerberg, après tout, le père de famille.
Et l'opinion publique, dans le fond, de dire...
Et de se rallier, l'opinion publique.
Faisons quelque chose, parce que Facebook a comme eu un... On appelle ça un free ride là, depuis ses débuts, là, dans le sens où il n'y a pas eu trop de barrières dans les règlements. Ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. Là.
Exactement, mais on peut se dire que maintenant, c'est un média qui est fondamental dans le monde entier. Et c'est ça qui est important, de faire attention à quel genre de données, d'informations circulent. Donc, on parlait de transparence absolue, de contribuer activement, de faire contribuer, d'aller chercher aussi les données des pays du Sud, comme on dit, même s'ils ne sont pas tous au Sud. Et puis aussi, attention, on veut, les chercheurs disent attention, nous, on veut qu'il y ait une entité indépendante qui vienne surveiller les études, que tout soit non seulement transparent, mais qu'il y ait cette entité chez Facebook, chez Meta, qui va dire, OK, vous utilisez une bonne méthodologie, vous utilisez, vous gérez bien les données, etc., pour arriver à des bonnes conclusions. On sait très bien qu'on peut manipuler les chiffres. Donc là, ces chercheurs disent, Mark Zuckerberg, vous avez une obligation morale
vraiment?
De répondre à en action.
Même
pas
si c'est
de
compagnie...
répondre simplement, de répondre avec des actions.
Ouais. Même si c'est une compagnie privée, ils ont une obligation morale de... C'est quand même, ça touche la société, ça cause des problèmes sociaux, là.
Et puis ça causera dans l'avenir. Ce sont des aussi. Enfants et des adolescents. Si physiquement quelqu'un s'attaquait à un enfant dans la rue, on trouverait ça inadmissible.
Ouais.
Mais là, c'est en ligne et c'est le psyché qu'on va chercher. C'est assez dangereux. Donc, évidemment, on pourrait dire pourquoi ils n'ont pas écrit à TikTok, qui est chinois. Bon, ben, on sait que TikTok, comme ça vient de Chine, c'est difficile à critiquer. Hein. En tout cas, la critique ne va peut-être pas être toujours acceptée.
Ouais.
On a Snapchat, il y en a d'autres, c'est sûr. Mais là, ils ont visé gros, ils ont visé Meta, qui a 3 milliards d'utilisateurs. Il manque de chiffres, justement, par rapport aux jeunes, aux ados véritables. On veut avoir accès à tous ces chiffres pour qu'il y ait de meilleures études. Et pourquoi ? Pour qu'il y ait une meilleure compréhension des risques, meilleure compréhension des avantages et des inconvénients pour la santé des jeunes. Parce que ça peut sortir de l'isolement, quelqu'un. Il y a des avantages.
Oui, il y a des avantages.
Mais il y a des effets, on doit les connaître, on doit connaître les chiffres. Et ils doivent pouvoir faire de meilleures recommandations pour les enfants et les jeunes. Donc, ils demandent vraiment des actions immédiates. Je peux vous dire qu'à ce jour, Il n'a pas encore eu de
non,
retour.
Ça risque de prendre du temps.
C'est ça. Donc, ils tentent de calmer le jeu. Chez Meta, ils calment le jeu, ils ne donnent pas de données, ils ne font pas d'action. On va suivre l'affaire.
En terminant, peut-être, as-tu quelques références? Est-ce qu'on cherche quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen de trouver des informations là-dessus?
Pour avoir les enfants, il y a un guide des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux de l'Université Sherbrooke. Pardon. Il y a la jeunesse J'écoute, évidemment, le site et un téléphone. Qui va être mis sur le site,
oui.
Et Love, comme l'amour en français, c'est une organisation donc, où il y a aussi du contenu sur comment bien utiliser les réseaux sociaux pour les jeunes.
Pour les gens qui veulent avoir les références, donc allez sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Merci beaucoup Catherine Stassin pour
Merci,
ce sujet.
Merci Yvan.
À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
On pourrait écouter la télé ensemble, mais tu voulais me voir prendre mic, limelight. Ça paraît que t'as fait tes études en danse, mais tu danses downtown tonight. Chut. Ils vont peut-être nous entendre, se pratiquer à produire des enfants en temps de table. Tu sais que j'ai un penchant pour les femmes avec des lances grenades et le sirop d'érable.
On s'était dit amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie, mais y'a un petit quelque chose qui m'a fini. On s'était dit amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie, mais quelque chose m'a faibli.
Je suis pas faible.
Ah, le way. It's all about you, sauf quand je suis sur mes quatre roues. Yeah, it's all about you, girl, sauf si le Canadien joue. Là, tu me déranges pas, mais it's all about you. Moi pis toi, je suis à Péranda. Ça guette très romantique, toi tu te mets en robe. Moi, je me mets en torse, je suis bien authentique. Dans le strip, pis super en forme. Tu n'auras pas de tip, pis je te paye en pot.
C'était tes amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie, mais y'a un petit quelque chose qui m'a fini. On s'était dit amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie, mais quelque chose m'a faibli.
Je ne suis pas faible, je ne suis pas faible, mais je suis un faible pour toi. Je ne suis pas faible, je ne suis pas faible, mais je suis un faible pour toi.
On pourrait voyager en Europe ensemble, se ramasser en France peut-être. On pourrait s'évader au Brésil ensemble, puis profiter de l'ambiance de fête. Danser dans le ventre de la bête, emménager au centre de la terre. C'était pas le seul bord de la mer, sauf le Drake Love tonight.
On sait qu'on s'apprécie, mais y'a un petit quelque chose qui m'a faibli. On s'était dit amis, malgré l'appétit. Pourtant, on sait qu'on s'apprécie, mais quelque chose m'a faibli.
Nous sommes Folie Douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre.
Nous poursuivons avec l'espresso allongé, le sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, le déséquilibre temporaire.
Oui, d'après un article de M. Mathieu Desroches, qui est comptable de son métier et aussi expert en organisation et productivité personnelle.
En écoutant ta première partie, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, c'est impossible, les gens, on peut pas toujours être bon partout, en tout temps. T'sais. Fait qu'il faut faire, je pense, des choix, être bon quand ça compte. le plus. Mm-hmm. C'est un peu ça qu'il semble dire. Là,
mais ben, on... c'est ça qu'il dit, là, ce M. Desroches. C'est pour ça qu'il
c'est
dit.
C'est un mythe.
Que...
Là,
c'est ça, ça la vie parfaitement équilibrée, selon lui, c'est un mythe. Exactement. Et son idée de déséquilibre temporaire, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut être un peu déséquilibré, mais seulement que pour un bout de temps, quitte après ça à s'attaquer à d'autres aspects.
À revenir à ce qu'on a abandonné un petit peu.
Oui,
là, c'est ça?
Exactement. Exact. Oui. Alors, je poursuis la lecture. M. Desroches nous dit « Je vais peut-être répondre à quelques emails, retourner un ou deux appels et écrire 300 mots pour mon article, mais je ne terminerai rien si je m'y adonne seulement qu'un peu. Tandis que si je passe 3 heures pleinement concentré sur mon article, en négligeant volontairement mes autres tâches, alors je serai sûrement capable de finir l'article. Or, l'équilibre suggère justement que je passe un peu de temps sur chaque chose pour les assumer et ne rien négliger. Et c'est exactement ça le problème, car il est impossible d'être parfaitement équilibré. On est toujours dans le milieu, toujours dans l'équilibre, et on ne va jamais aux extrêmes. On consacre un peu de temps sur chaque chose, comme la famille, la santé, les amis, le travail, etc. Mais dans les faits, on a de la difficulté à accomplir quelque chose de concret. Or, le problème, c'est que les accomplissements se produisent aux extrêmes de ce schéma. C'est-à-dire quand on s'y adonne vraiment à fond.
Oui, quand on fait de la qualité, non pas de la quantité, jusqu'à un certain
exactement,
point.
Exactement, parce que pour devenir bon dans quelque chose, n'importe quoi, il faut que tu y consacres du temps.
Ouais.
Or, tu deviens déséquilibré, veux pas.
Oui, mais ça a du bon parce que tu donnes une meilleure une performance ou une meilleure prestation dans ce que tu fais. Hein?
Exactement. M. Desroches nous dit, en fait, lorsqu'on passe volontairement beaucoup de temps sur une dimension, c'est là qu'on voit de vrais résultats. Par exemple, si je vais au gym 6 fois par semaine, je vais certainement voir de gros résultats parce que je m'y suis investi à fond. Bon, c'est sûr qu'en allant au gym aussi souvent, je vais peut-être avoir un certain déséquilibre et négliger ma relation avec mes amis. Mais si mon but est d'être musclé, je n'ai pas le choix d'avoir un déséquilibre pour m'entraîner intensément et voir des résultats. À l'inverse, si je vais au gym seulement 2 fois semaine en cherchant à avoir un mode de vie équilibré, je ne verrai jamais autant de résultats. Certes, je vais avoir plus de temps pour voir mes amis, mais les résultats sur ma condition physique seront moins au rendez-vous. La raison pour laquelle l'équilibre est un mythe, c'est que c'est une philosophie contraire à la productivité, car la productivité, ce sont des accomplissements. La productivité, c'est la capacité d'accomplir nos activités les plus importantes efficacement, et non pas d'accomplir toutes nos activités.
C'est les relations humaines, je trouve, qui sont plus difficiles à gérer là-dedans, parce que quelqu'un, une famille, conjoint-conjointe, des amis, comme tu dis, des parents, tu sais, comment qui mettre de côté, en fait? C'est un peu ça, on n'a pas le choix.
Ouais, c'est pas facile.
Non.
M. Desroches nous dit « Ce qui compte, c'est d'accomplir les choses qui ont une réelle valeur, pas d'essayer de tout faire. » Dites-vous que toutes les activités n'ont pas la même valeur. Par exemple, répondre à mes courriels a beaucoup moins de valeur que le fait que j'écrive un article. Dans son cas, à lui.
Oui.
Parce que ça fait partie de son métier.
Il écrit,
oui. Il nous dit, ou bien faire le ménage de ma maison n'a pas la même valeur que de passer du temps de qualité avec ma femme. Et si je veux effectivement écrire cet article, je dois certainement passer moins de temps dans ma boîte de courriels. Tout comme je dois certainement négliger le ménage de la maison pour une période afin de sortir et de passer du temps de qualité avec ma femme. Si j'essaie d'être parfaitement équilibré entre mes courriels et mon article, je risque de passer 1 heure à lire mes courriels et 1 heure à écrire. Or, si je suis volontairement déséquilibré et que je passe 15 minutes dans mes courriels et 1h45 à écrire, je verrai beaucoup plus de résultats. Bref, l'équilibre de vie ne fonctionne pas puisque ça limite les accomplissements. Je dirais donc ceci, pour être productif, il faut être volontairement déséquilibré. Et ceci nous amène à la solution. Plutôt que de chercher l'équilibre parfait en tout temps, il est préférable de viser les déséquilibres temporaires. Selon moi, c'est la seule vraie façon de poursuivre un certain équilibre de vie tout en s'assurant d'accomplir des choses significatives. Car de toute façon, la vie est ponctuée de plusieurs déséquilibres selon la saison et les circonstances. Par exemple, quand vous étiez aux études, vous avez tous connu les dures fins de session. Cela impliquait nécessairement que vous consacriez presque tout votre temps à vos études pendant 2 à 3 semaines au détriment de votre vie personnelle. Vous sacrifiez des sorties et du temps personnel pour affronter cette fin de session et réussir vos examens. C'est un débalancement temporaire nécessaire pour vous permettre d'avoir du succès dans vos études. Et si vous aviez cherché à rester parfaitement équilibré, même dans vos fins de session, alors vous n'auriez pas réussi à consacrer assez de temps et d'énergie à vos études, ce qui vous aurait fait échouer.
Il s'agit de choisir les priorités.
Exactement,
oui. C'est ça, en tout temps. Là.
Oui. La vraie solution qu'il faut s'efforcer d'atteindre pour être productif et bien gérer son temps, c'est de viser un bon équilibre de vie de façon générale, tout en acceptant les déséquilibres temporaires, afin de s'investir à fond dans une dimension et accomplir quelque chose. Par exemple, je suis occasionnellement en période de débalancement temporaire pendant 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois chaque année, pendant la période des déclarations d'impôts au Québec.
Ouais, effectivement, ça c'est...
Oui, parce que ce monsieur est comptable de son métier. Alors, je dois m'arrêter ici.
Rappelle donc le titre en terminant, Pierre, si les gens veulent justement le lire, là, c'est fort intéressant.
Ça s'appelle « Le mythe de l'équilibre de vie » de M. Mathieu Desroches.
Merci beaucoup, Pierre Laporte. Donc, très beau sujet.
Je me dis souvent, j'ai pas trop le choix. À quoi bon chercher si c'est comme ça? Un jour j'ai trop, un jour j'ai pas. Un jour de trop, un jour je sais pas. Un jour de plus et je m'oublie moi. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Pour conclure cette émission, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine. On a entendu en début d'émission « On the Run ».
Oui, de Liana.
On a entendu « On s'aimera toujours ».
De « Cœur de pirate ».
En deuxième demi, « Faible pour toi ».
De « Red Next Level » avec Claude Bégin.
Et à l'instant, « Le chant des colombes ».
De Amel Bent.
Merci pour le choix musical et ta mise en onde.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci également pour ton sujet aux Espresso, où tu nous as parlé du déséquilibre temporaire qui est conseillé. En fait, on a appris ça. C'est une bonne façon de vivre, effectivement.
Ça vaut la peine d'être un peu tout croche.
Oui, un peu tout croche. C'est rare que le déséquilibre est positif, mais dans ce cas-là, ça l'est. Alors, merci beaucoup pour ça. Notre invité en début d'émission, Martine Thomas, nous a mieux fait connaître le groupe PAR. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était des nôtres et elle nous a parlé d'une lettre au patron de Facebook. Alors, c'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.